Alors, merci de votre présence pour cet atelier sur la vocation de la France, ou nous pourrions aussi l'intituler « La France dans les cœurs unis de Jésus et Marie ». Nous verrons ce que nous entendons par vocation, et puis surtout nous approfondirons peut-être cette question « Sommes-nous convaincus de la mission particulière de la France ?» En septembre dernier, alors que nous mettions en place des initiatives en faveur de la France et que nous nous demandions quel accueil leur serait réservé, eh bien notre curé de Draguignan, qui est d'origine camerounaise, fit cette réflexion « Ma sœur, il n'y a que les Français qui ont un problème avec la vocation de la France. » C'est assez juste, hein, parce que nous, Français, eh bien nous sommes des passionnés, qui avons une fâcheuse propension à faire des guerres de parti là où il n'y a pas lieu d'en inventer. Mais la raison profonde, c'est peut-être qu'au fond, eh bien, nous avons du mal à croire véritablement au dessein particulier de Dieu sur la France. Face à l'accumulation des maux présents qui semblent secouer notre pays, hein, jusque dans ses racines les plus profondes, je ne vous apprends rien, d'aucuns pensent que nous arriverions à la fin de notre civilisation. On entend souvent « la France, mais ma sœur, elle est tombée trop bas pour que Dieu veuille la relever ». Je pose la question, ne faisons-nous pas alors le péché de Judas ? Ne mettons-nous pas des limites à la miséricorde de Dieu ? Voilà, vous êtes là, chers amis, parce que vous avez foi en la vocation de notre pays. Nous tâcherons, au cours de notre atelier, tout en restant bien sûr lucides hein, sur les reniement de notre pays, qui ne sont pas nouveaux, et bien de combattre l'arme préférée du démon qui est le découragement. Ah mais ma sœur, nous sommes une poignée, la preuve, une infime poignée de gens qui croient encore au relèvement de la France. Et alors hein, ils n'étaient que 12 et ils ont enflammé le monde, donc cet argument du petit nombre n'a jamais tenu devant Dieu. Ou alors cette fois nous mettons des limites à sa toute puissance. Notre atelier se tient sur 2 jours. Cette première journée sera consacrée à un rappel historique de l'histoire de notre pays. Nous reviendrons aux sources avec l'émergence de la chrétienté en Gaule et l'événement révélateur de la vocation de la France que fut le baptême de Clovis, puis ses conséquences sur les rois de France et l'alliance particulière de notre pays avec l'Église. Nous nous attarderons en particulier sur l'appellation de fille aînée de l'Église. Donc il ne s'agira que d'un survol bien imparfait, parce que ni Sœur Geneviève Marie ni moi ne sommes historiennes ou spécialistes de ces questions. Donc merci d'avance pour votre indulgence. Mais notre but se situe ailleurs, c'est plutôt de raviver en nos cœurs l'espérance nécessaire au relèvement de la France. Dans une deuxième partie, aujourd'hui, Sœur Geneviève Marie nous parlera plus spécifiquement de la France dans le cœur de la Vierge Marie. France, fille aînée de l'Église, donc je commence par un survol historique avec l'émergence hein, d'une chrétienté en Gaule. La Gaule qui fut le terreau d'une vocation. Hein. Quelques faits significatifs. Dès l'an 43 de notre ère, eh bien n'oublions pas que des proches de Jésus débarquèrent en Provence. Saint Maximin, qui fut le disciple de Jésus, Saint Sidoine, l'aveugle-né, évangélise la région du Var. Marie Jacobée, Marie Salomé partent en Camargue, Sainte Marthe en Avignon, hein, 3 siècles après, d'ailleurs, Clovis sera guéri sur son tombeau. Sainte Marie-Madeleine qui s'établit à la Sainte-Baume, avec ses reliques qui vont être gardées à Saint-Maximin. Saint-Lazare, Sainte Véronique qui, eux, vont prêcher après dans le Bordelais. Nous connaissons aussi la ville d'Apt qui a reçu les reliques de Sainte-Anne. Et puis Saint-Maximin, ce premier évêque d'Aix-en-Provence. Et puis il y a les premiers chrétiens, hein, les martyrs de Lyon, en 77, Potin, Blandine, Valère, et puis cette deuxième vague de martyrs en 197, pendant la persécution de Marc Aurèle, où il y a eu 48 morts, martyrs. Le récit des martyrs de Lyon nous est rapporté par Sainte Irénée de Lyon, hein, je rappelle ces dates, 110-190, qui lui-même était disciple de Saint Polycarpe ayant connu Saint Jean. Et puis Saint Irénée qui est depuis peu déclaré docteur de l'Église par notre pape François. Saint Irénée, c'est le premier docteur de l'Église à lutter contre les gnostiques, hein, qui nie cette hérésie qui consiste à nier l'unité de l'âme et du corps, chez l'homme. Pour eux, l'esprit humain eh bien, doit se libérer de la matière, hein, ce qui évidemment est contraire au mystère de l'incarnation et donc de la rédemption et de toute notre révélation. Puis il y a saint Denis, premier évêque de Paris, qui est martyr sous Dès. Saint Hilaire de Poitiers, mort en 376, qui lui a lutté contre l'arianisme, et nous y reviendrons, mais schématiquement c'est l'hérésie qui nie le plus la divinité de Jésus. Hein. Saint Martin de Tours, fondateur de l'abbaye de Ligugé, évêque de Tours, lui il a lutté plus particulièrement contre les druides et les faux dieux. Hein, vous voyez, donc on a toute une série de saints qui ont défendu l'orthodoxie déjà de la foi catholique. Saint Germain d'Auxerre, lui, il a lutté contre le pélagianisme, cette hérésie qui rejette la doctrine de la grâce, puisque nous nous sauvons, pense-t-il, par nos propres forces. Sainte Geneviève, dont nous reparlerons, qui aura une forte influence dans le contexte historique et politique de son époque. Hein, elle a sauvé son peuple d'Attila et des Huns en 451, et puis elle a sauvé Lutèce de la famine en s'imposant face aux Francs avant la conversion de Clovis au catholicisme. L'événement révélateur de la vocation de la France, eh bien, c'est le baptême de Clovis. Nous ne sommes pas historiennes, nous tiendrons que c'était à la Noël 496, même si les historiens voilà, sont pas tout à fait d'accord sur la date exacte. Je m'appuie surtout, pour le résumé qui va suivre, sur l'ouvrage remarquable de Michel de Parfintegno, « Aux sources de la France », aux éditions Teki. Voyons déjà comment la Gaule a su résister à l'arianisme, hein, et puis finalement a fait naître une vocation nationale et religieuse. Voilà. La situation en ce début du 5e siècle est grave, vraiment grave, en raison donc des progrès de cette hérésie qui a été terrible, on a du mal à se rendre compte, et qui a menacé la vie religieuse et tout autant la vie civile. Donc, je recite l'arianisme. C'est une hérésie qui a gagné l'Espagne, qui a gagné l'Afrique, une grande partie des Gaules, en raison précisément des invasions barbares. Les Germains apportaient alors non seulement leur barbarie, mais également l'hérésie. Monseigneur Colli, dans « Histoire de la religion et de l'Église », explique bien ce qu'est l'arianisme. Je le cite. « Arius, en parfait rationaliste, séparait Dieu de l'homme, et d'une fausse notion de la Trinité, il concluait « Dieu est unique, il est trop grand, trop élevé et trop pur, pour condescendre à créer le monde. » Mais, pensait-il, il créa tout d'abord un être intermédiaire, plus grand que toutes les créatures, mais moins grand que Dieu. Savoir le Fils unique de Dieu, mais inférieur à Dieu, qui ne saurait donc être Dieu. Voilà. Donc il nie à la fois la Trinité, l'incarnation, par conséquent la rédemption, tout se tient. Voilà, c'est le complet renversement hein, du dogme chrétien. Et toute la lutte arienne eh bien, se concentrait autour du mot consubstantiel, dont, voilà, que nous avons remis à l'honneur il y a peu de temps dans notre credo. Le Verbe était-il ou non de la même substance que le Père, ou bien n'était-il qu'une créature inférieure ? Et Arius était de ce dernier avis, niant la divinité du Verbe, fils de Dieu. Eh bien, donc, du coup, il en arrivait à nier la divinité de Jésus. Donc on voit l'enjeu. Hein, si l'arianisme, qui avait submergé les pays de l'Est et du Nord germanique, eh bien, l'avait emporté également en Gaule, eh bien, finalement, ça aurait été fait de l'Église romaine. Ça aurait été fait aussi de la Gaule chrétienne, et encore plus de l'espérance franque. Très tôt, saint Rémy, évêque de Reims, eut de bonnes raisons de considérer Clovis comme le chef le mieux placé pour opérer une union entre le pouvoir temporel avec la foi catholique et la foi catholique. Il voyait venir le temps où le prologue de la loi salique, alors je rappelle ce qu'est la loi salique, hein, c'est un nom de code juridique, hein, sans doute rédigé vers l'an 500, et qui régissait les francs saliens. Voilà, l'article le plus important de ce code, vous le connaissez, c'est celui qui réserve au fils la transmission des terres par succession. Hein. Donc de là est venu le principe qui a prévalu dans la monarchie française de la transmission de la couronne par ordre de primogéniture masculine. Voilà. Et donc le roi franc, par cette loi salique, a été pressenti comme l'élu du Christ, véritablement l'élu du Christ. Vous connaissez aussi ce que dit ce prologue, « Vive le Christ qui aime les francs ». Voilà. Il est important de savoir que dès l'origine, toute première de l'histoire de France, eh bien, on trouve cette pierre d'angle de notre constitution politique, hein, la succession monarchique assuré pour des siècles et sacralisé par l'Église. En 486, petit rappel, il y avait 4 armées qui vivaient sur le sol de Gaule. Les Francs eurent à affronter plusieurs armées qui se partageaient le sort de la Gaule et qui n'avaient cessé de se disputer la possession des cités gauloises. Donc il y avait les Visigoths et les Burgondes, notamment, qui se faisaient perpétuellement la guerre pour décider qui des deux aurait l'Auvergne. Toute l'histoire de la Gaule au 5e siècle est remplie de cette sorte de lutte. Et des 4 armées qui occupaient le pays en 486, eh bien, c'est celle de Clovis qui était la moins nombreuse et la plus pauvre. Clovis attaqua les 3 autres, en commençant par la plus faible, celle qui se trouvait être commandée par Syagrius. Et Clovis s'en est rendu aisément maître par la victoire de Soissons. Et c'est là qu'intervient Sainte Clotilde. Sainte Clotilde, cette jolie petite Burgonde, qui était restée catholique. Sa famille était princière et donc imprégnée de culture politique. Elle-même, sans doute, fréquentait Saint-Avit, évêque influent de Vienne, et se laissait volontiers diriger par lui. Voilà, il est probable que l'évêque de Reims, Saint-Rémy, était également en relation, dès le départ, avec Sainte-Clotilde, étant donné l'importance qu'il attachait, avec Saint-Avit, à l'avenir moral et politique des Gaules. Voilà. Georges Goyot, spécialiste de la question, disait qu'il n'est pas impossible que le mariage de Clovis avec Clotilde ait été préparé par Avit, évêque de Vienne. Saint Avit était un politique en même temps qu'un docteur. Enlevé à l'arianisme la France orientale et installé dans le nord, à côté de Clovis, une princesse catholique, c'était un plan digne de lui. C'était préparer l'heure où la physionomie des Gaules changerait et où le catholicisme y ferait une pointe conquérante. Voilà. Mais pour que cette heure puisse sonner, eh bien, il fallait que Clovis se convertisse. En tout cas, en 490, eh bien, il voit ce chef guerrier voit tout le parti qu'il peut tirer de son union avec la jolie Clotilde, et il accepte le mariage. Voilà. Mais il demeure inflexible quand sa femme émet le souhait de le convertir au christianisme. Abandonner ses dieux, ce serait abandonner ses hommes, et ce serait les trahir, répond-il inlassablement aux suppliques de Clotilde. Donc Clovis n'est pas mûr pour le baptême en 490, et lorsque survient l'épreuve de la mort de leur premier-né, que Clotilde avait pourtant fait baptiser, eh bien il se retourne vers ses vieilles croyances polythéistes, parce qu'il pense que ces dieux germaniques eh bien, auraient châtié Clovis de ses infidélités, et puni sans doute son épouse. Voilà, donc il est troublé au plus profond de lui-même, et il ordonne à ce moment-là un renforcement du blocus de Lutèce. Et il veut faire céder donc les habitants de Lutèce par la famine. À ce moment-là, eh bien la tension monte entre Sainte-Geneviève, qui force le blocus de Clovis, et la tension monte, mais ce ne fut pas Sainte-Geneviève qui céda, puisque à 70 ans, eh bien, elle obtint gain de cause. Voilà. Et elle eut raison de Clovis et de ses Lutétiens, avec ses Lutétiens. Voilà. Ceux-ci revinrent avec toujours la même réponse. Que Clovis se convertisse au christianisme et Lutèce ouvrira ses portes. Voilà. Donc il fallait vraiment un événement choc pour décider notre Clovis à la conversion. La bataille de Tolbiac, vous le savez, fut cet événement. On connaît l'histoire, le heurt des armées, la défaillance des Francs, la furie des Alamans. Donc Clovis se voit perdu et il se rappelle alors les leçons de son épouse et puis celle de l'ermite aussi Saint Vast. Soudain, il se tourne vers le dieu de Clotilde et lui permet de recevoir le baptême s'il veut bien lui accorder la victoire. La grâce de la victoire vient alors, le retournement du sort des armes est rapide et la victoire des Francs est complète. Et Clovis tient parole. Il choisit le jour de Noël pour se plonger dans l'eau du baptistère de Reims. L'évêque Saint-Rémy lui verse l'eau de la régénération et il la verse aussi aux 3000 guerriers francs en même temps. La conversion des 3000 guerriers de Clovis a soulevé et soulève encore chez nos contemporains beaucoup de scepticisme, doutant de la sincérité ou de la conscience de ces rudes guerriers. Et l'historien Yvan Gobry a fait cette juste réponse. Ce qui peut paraître ici un curieux revirement n'est pas difficile à imaginer. Les guerriers avaient connu le vœu de Clovis sur le champ de bataille et lui avaient attribué la victoire qui avait suivi. Ils admiraient donc la puissance du Dieu chrétien. Ils étaient témoins de ce miracle. Ensuite, quand sur le chemin du retour, Clovis s'était arrêté à Toul, qu'il venait de délivrer de l'occupation des Alamans. Il s'était lié d'amitié avec Saint Vaste, alors ermite et futur évêque d'Arras. Celui-ci avait répondu à toutes les questions du converti. Rien de tout cela n'avait échappé aux vainqueurs des Alamans, qui vouaient à leur roi une admiration de plus en plus grande, qui en étaient venus à considérer comme juste et légitime l'intérêt qu'ils portaient au catholicisme. Et puis, ajoute Yvan Gobry, on ne peut guère soupçonner le grand Rémy, si soucieux de la foi de son troupeau, si pénétré de sa responsabilité devant l'avenir de la nation franque, à laquelle il appartenait désormais, et qu'il allait engendrer dans la vie surnaturelle, d'avoir baptisé en masse des hommes sans conviction et sans préparation. Voilà. C'était peut-être pas 2 ans de catéchuménat, mais enfin, la préparation était là. Donc le baptême de Clovis, on s'y est un petit peu attardé, mais parce que il fut vraiment le sacrement initial de la chrétienté française. La France est née ce jour-là. Clovis a été le premier roi chrétien par la foi. Et 15 siècles plus tard, le pape Saint Jean-Paul II pourra dire « Avec le baptême, la nation est née et son histoire a commencé. D'abord la Gaule et ensuite la France, la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, dans la capitale de votre nation, ajoutait-il, je voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté, fille aînée de l'Église. » Clovis est désormais le seul capable en Occident de perpétuer la tradition chrétienne catholique de l'Empire, les autres nations restaient ariennes. Dans cette optique, son pouvoir souverain est appelé à devoir s'exercer au-delà du royaume qui lui est effectivement soumis au moment du baptême. Donc c'est vraiment la conversion de Clovis qui donne le fil directeur de la vocation de la France. Un fil directeur spirituel, politique, qui deviendra une véritable vocation, une tradition, une hérédité pour la France. On connaît ce gesta dei per Francos, l'action de Dieu par les Francs, ce cri de notre peuple qui jaillira plusieurs siècles plus tard et qui exprimera la même tradition nationale et le même mystère de, disait Saint Jean-Paul II, de son alliance avec la sagesse éternelle. Donc le génie de Clovis, ça a été de fonder la tradition royale de la France sur le principe fondateur de l'intégration en toute chose, du temporel et du spirituel, de la foi et de la raison, de la culture et de la religion. Les déraillements, les fautes morales et politiques ont été fréquentes, il ne faut pas le nier. Mais la ligne directrice était reconnue et affirmée, elle permettait toujours les réconciliations et les réparations. Clovis, vainqueur des Burgondes, des Visigoths, comme il avait été vainqueur de Syagrius, n'a pas eu à chercher des moyens nouveaux pour gouverner. Ça aussi c'est intéressant, il a adopté finalement les institutions et le droit public de l'Empire romain, qui existait déjà. Et puis le nouveau pouvoir franc restait dans la mouvance temporelle romaine que les Gaulois avaient adoptée depuis au moins 4 siècles. Quant à la mouvance spirituelle, la conversion fervente de Clovis et l'assistance de Saint Rémy, de Saint Avit, de Saint Césaire d'Arles et de tant d'autres remarquables évêques de son temps, était garante de la fidélité du conquérant aux valeurs religieuses essentielles qui constituaient le fondement de la vie sociale gauloise depuis au moins 3 siècles. Et on sait que la première charte fondamentale du royaume de France, c'est le testament de Saint Rémy. Saint Rémy qui s'exprimait ainsi par égard pour cette race royale que j'ai baptisée, tenue sur les fonds du baptême, enrichie des 7 dons du Saint-Esprit et sacrée de l'onction du Saint-Crème. 3 points. Si un jour cette famille, 3 points, rendant le mal pour le bien, usurpe, ravage ou détruit les églises de Dieu et s'en déclare l'ennemi ou la persécutrice, je demande que les évêques de la province de Reims soient convoqués et lui fassent d'abord des remontrances. Voilà. Donc en nous replongeant, c'est le cas de le dire, dans le baptême de Clovis, nous devons redécouvrir les trésors vraiment de notre héritage historique. Il faut remonter, aider nos enfants, notre jeunesse, à remonter vers cet héritage, remonter aux sources, vers les sources de notre héritage pour comprendre les caractères particuliers, uniques de notre nation. L'union mystérieuse de la nature et de la grâce. Je cite Monsieur de Paffin-Théniaud, « Dans notre histoire nationale, la France est fille de la Rome antique, héritière de son art de penser, de construire, de se gouverner, héritière de son art de parler, de sa façon d'ordonner les choses, d'aménager sa justice. Cette France, parce qu'elle a su être fille de Rome, est devenue mère et maîtresse de nombreuses autres nations. Voilà. Mais la France est aussi fille de l'Église catholique romaine, comme nous allons le voir. Elle a été éduquée, nourrie par l'Évangile, par ses papes et ses évêques, par ses saints fondateurs, des cités, des écoles, des hôtels-dieux, des monastères, des missions. Même si, évidemment, aujourd'hui, le paysage de France a changé. Je pense rien qu'à Draguignan, par exemple, et la liste n'est pas exhaustive, le couvent des Capucins a été transformé en appartement de luxe. Voilà, le couvent des Cordeliers est devenu la mairie. Celui des Dominicains a été un temps une boîte de nuit. Voilà. Mais les racines sont là. Voilà. Et quel village de France n'a pas son clocher ? Enlever les fruits du catholicisme dans notre histoire, que restera-t-il ? Voilà. En tout cas, ce baptême de Clovis a eu un immense impact. Saint Rémy, qui a survécu de 20 ans à Clovis, a pu dire ceci, c'est rapporté par Flodoard, « Le royaume de France est prédestiné par Dieu à défendre l'Église du Christ, notre Seigneur. Ce royaume sera grand entre tous les royaumes de la terre. Tant qu'il sera fidèle à sa vocation, il sera victorieux. S'il s'y montre infidèle, il sera durement châtié. » Plein d'espérance. Il durera malgré tout jusqu'à la fin des temps, dit Saint Rémy. Il y a eu un grand retentissement de ce baptême en Occident. Notamment Saint Avit disait à Clovis, « Le royaume des Francs est un soleil dont la lumière ne doit pas rester emprisonnée dans les limites d'un territoire restreint. Ses rayons doivent resplendir partout et au profit de tous. » Et puis je cite aussi le cardinal Pie, qui, en la fête de Saint Rémy, justement, en 1876, s'était exprimé ainsi, voici le caractère propre et spécifique de la nation enfantée au christianisme par Saint Rémy, entre tous les autres peuples d'Occident. Le peuple de France est né apôtre et missionnaire. L'adhésion personnelle à la vérité ne lui suffit pas, il en est constitué le propagateur dans le monde entier. Voilà, donc il y a eu vraiment toutes ces conséquences politiques du baptême de Clovis. Je vous rappelle l'alliance de l'Église et du peuple franc. Les Francs qui sont des soldats du Christ, devenus des soldats du Christ, des défenseurs de l'orthodoxie et donc du soutien de la papauté. Le roi franc et ses successeurs sont devenus lieutenants du Christ. Ça a donné lieu à la naissance de la nation franque, le baptême étant devenu un facteur d'unité. Et puis l'onction du crème, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais est devenue le signe de légitimité du pouvoir royal. Je vous propose d'approfondir maintenant cette appellation de France, fille aînée de l'Église. Et j'emprunte ici l'essentiel de ma réflexion à des conférences du cardinal Paul Poupart, qui ont été rapportées dans un ouvrage que je vous conseille, « France, fille aînée de l'Église », aux éditions Régnier. Voilà. En passant de la chronique contemporaine à l'histoire, c'est un passage qu'il faut faire, de fils aîné de l'Église, attribué au roi de France, à la France, fille aînée de l'Église. Le roi de France est fils aîné de l'Église, d'abord. Dans le premier millénaire, nous voyons toute cette proximité, cette alliance entre les papes et les francs. Le VIe siècle, le pape Hormisdas a reçu une couronne d'or de Clodomir, qui était le fils de Clovis. Le pape Pélage II, lui, en 580, a écrit à l'évêque d'Auxerre pour qu'il intervienne auprès du roi franc, pour obtenir son appui contre les Lombards. Il disait même, « Nous croyons que ce n'est pas sans raison et sans un dessein spécial de la Providence que vos rois professent la même foi orthodoxe que l'Empire romain. Elle a voulu donner à la ville de Rome, berceau de cette foi, et à toute l'Italie, des voisins qui soient ses protecteurs. » La première expression de « fils aîné », répertoriée en tout cas, est romaine. C'est le pape Alexandre VI qui, dans des circonstances difficiles, accueille le 19 janvier 1495 le roi de France, Charles VIII, qui était alors sur le chemin de Naples avec ses troupes françaises. Le roi lui dit « Saint-Père, je suis venu pour faire obédience à votre sainteté, comme ont accoutumé de faire mes prédécesseurs rois de France. » Le pape, tenant de sa main gauche la main droite du roi, bras dextre, lui répondit en l'appelant son fils aîné. Voilà, donc à vrai dire, si la formule de fils aîné à la fin du XVe siècle apparaissait nouvelle, les prérogatives de cette formule étaient fort anciennes, comme en témoigne une lettre de Saint Grégoire le Grand au roi mérovingien Childebert II, donc en 595. Il disait, autant la dignité royale est au-dessus des autres conditions humaines, autant votre dignité à vous l'emporte sur celle de tous les autres rois. Régner est peu de chose, dit Grégoire le Grand, puisque d'autres que vous sont rois, eux aussi. Mais ce qui vous constitue un titre unique, que les autres rois ne méritent point, c'est d'être catholique. Donc c'est vraiment ça qui sera l'origine, hein, qui deviendra l'origine du droit d'aînesse des rois de France. Fils de l'Église, depuis un siècle, les rois mérovingiens arrivaient bon premier hein, dans la série des princes catholiques. Et puis au milieu du 8e siècle, eh bien, il y a une naissance d'une véritable alliance hein, entre les papes et les francs. Là non plus, je ne peux pas être exhaustive, mais je citerai simplement quelques faits. Voilà. Étienne II, au 8e siècle, demande le secours du roi franc contre les Lombards. Hein, il nomme Pépin et ses fils patrice des Romains, voilà, le protecteur de la ville et des biens de l'Église romaine. Ce même pape, s'adressant en 755 au peuple franc, disait « Moi, Pierre, apôtre, ordonné par la puissance divine pour éclairer le monde, je vous ai choisi pour mes fils adoptifs, afin de défendre contre leurs ennemis la cité de Rome. » C'est quand même pas rien tout ça. « N'hésitez point, mes bien-aimés, mais croyez que je vous prie et vous conjure, comme si j'étais présent devant vous, car selon la promesse reçue de notre Seigneur et Rédempteur, je distingue le peuple de France entre toutes les nations. » Et un an plus tard, il dira « Au-dessus de toutes les nations qui sont sous le ciel, votre peuple franc s'est montré dévoué envers moi, Pierre, apôtre de Dieu. » Paul Ier, au 8e siècle, appelait aussi le roi de France son fils aîné, et c'est lui qui a donné Sainte Pétronille, la fille spirituelle de Saint-Pierre, comme protectrice du royaume franc. Ouais, je crois que c'est tous les 11 mai que la messe est célébrée pour la France dans la chapelle Sainte Pétronille, à Rome. Dès lors, l'appellation de fille aînée de l'Église ne cessera d'être couplée avec celle de roi très chrétien. Là encore, quelques exemples parmi d'autres. Nous devons faire un choix. Veluti maximus natu filius. C'est comme ça que l'ambassadeur de France a présenté son souverain, le roi Louis XII, en consistoire public, hein, c'est-à-dire comme premier fils du Saint-Siège par la naissance. Le roi de France reprendra cette appellation dans ses lettres patentes pour la publication du Concordat de 1516 où il se déclare premier et souverain fils de l'Église. En 1533, Jean du Bellay, évêque de Paris, parle au nom du roi de France, fils aîné de l'Église romaine. Voilà, donc c'est donc de droit que les rois de France ont le titre de fils aîné de l'Église, car après le pape qui en est le chef et après la seigneurie de Venise qui est née au sein du christianisme, parce que c'est l'ambassadeur vénitien Michel Suriano, hein, dans son rapport à son gouvernement, qui avait dit « La France aussi fut le premier des royaumes à accepter la foi chrétienne », voilà, ce qui advint sous Clovis. Eh bien, voilà, il est dit que la foi s'est toujours conservée hein, dans ce royaume. Il n'est ni royaume ni état, disait-il, du monde qui puisse se vanter d'avoir reçu avant la France la foi chrétienne. Chrétienne, encore une fois, orthodoxe, voilà. Ainsi s'est opéré donc le passage du roi au royaume. Comme son souverain est le fils aîné, la France est le royaume aîné de l'Église. Voilà, même Bossuet y est allé de son éloquence dans une lettre à Innocent XI. Voilà, il disait « La France portera toujours des Charlemagne, des Saint-Louis, des Louis le Grand, et ses rois apprendront qu'être roi de France, c'est être vraiment très chrétien, vrai fils aîné de l'Église et son protecteur naturel contre les impies. » Voilà, nous sommes quand même bien loin de ce que nous vivons de nos jours. La France est tellement chrétienne, hein, c'est tellement enracinée dans sa vocation, eh bien que même le souverain n'était pas à même d'imposer sa religion. Et nous avons évidemment cet exemple avec Henri IV, hein, qui comprit qu'il ne pouvait devenir roi de France sans abjurer le protestantisme. Hein, les Français sont catholiques, eh bien, au roi de s'y conformer. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque nous rapporte Pierre de l'Étoile, lorsque le pape Paul V a pris la nouvelle de l'assassinat de Henri IV, eh bien, il s'écria devant l'ambassadeur français « Ah, mon ami, vous avez perdu votre roi et votre bon maître, et moi, j'ai perdu mon bon fils aîné. » Voilà, Louis XIV, au fait de sa gloire, obtiendra que le titre soit dûment mentionné aussi dans le traité de Pise. Et puis, même Albert Camus, hein, dans « L'homme révolté », eh bien, voit tomber avec la guillotine du 21 janvier 1793 la chrétienté temporelle. Hein, ce n'est pas Capet, dit-il, qui meurt, mais c'est Louis de droit divin. Voilà. Et à la révolution jacobine, eh bien, succéderont les révolutions cyniques, hein, qu'elles soient de gauche ou de droite. Là, je cite toujours le cardinal Poupard, hein, des révolutions qui vont tenter d'acquérir l'unité du monde pour fonder enfin la religion de l'homme. Voilà, tout ce qui était à Dieu, finalement, sera désormais dramatiquement donné à César. Voilà, donc nous avons vu ces liens privilégiés, hein, entre la France et l'Église. On se souvient de cette parole de saint Rémy, « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Hein, » Donc c'est l'histoire ne fait aucun doute, hein, la vraie histoire. Des liens solides et privilégiés, hein, se sont formés depuis le baptême de Clovis, premier roi barbare à embrasser le christianisme romain, non arien, entre la France et l'Église. La France, nation catholique, hein, tôt rassemblée autour de son roi, et qui, par son poids démographique, politique, par son rayonnement spirituel, culturel, eh bien, a joué longtemps un rôle de colonne de l'Église. Hein, c'est une expression du pape Léon XIII. Voilà. Alors, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chauvinisme là-dessous, quand même. Il y a un remède à cela, eh bien, en fait, pour tenter de remédier à ces doutes, en tout cas, c'est le rappel des papes, hein, de ce que disent les papes quant à la vocation de la France, et des papes qui, pour la plupart, n'étaient pas français. Hein. Donc là aussi, je me limite à quelques citations parlantes, hein, du fait de manque de temps, mais c'est important de s'y replonger. Par exemple, Urbain II, qui a prêché la première croisade en 1089, eh bien, il nomme le roi Philippe Ier, le roi très chrétien, et lui confère une place privilégiée dans l'Église. Innocent III, qui est mort en 1216, disait « Nous avons pour le royaume de France une amitié particulière, parce que plus que tous les royaumes de la terre, il a été de tout temps attentif et dévoué au siège apostolique et à nous. » Pie II, contemporain de Sainte Jeanne d'Arc, disait « En vérité, il semble que les Français et leurs rois aient été choisis pour propager, on revient à cette propagation missionnaire, pour propager l'Évangile par toute la terre, voilà leur plus beau titre d'honneur. » Grégoire IX, hein, s'est adressé ainsi à Saint Louis « Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. » Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Paul II, c'est lui qui a, donc au XVe siècle, qualifié Louis XI de bras dextre, bras droit de l'Église et très chrétien devant les autres. Il y a également, il y a évidemment cette rupture, hein, de 1789, rupture dramatique, avec la mort du roi, du fils aîné, hein, de l'Église, et donc du représentant du Christ-Roi. Hein, avec toutes ses conséquences. Et je ne résiste pas à vous citer cette parole poignante du pape Pie VI, donc justement à l'occasion de la mort de Louis XVI. « Ah France, ah France, toi que nos prédécesseurs appelaient le miroir de la chrétienté et l'inébranlable appui de la foi, toi qui par ton zèle pour la croyance chrétienne et par ta piété filiale envers le siège apostolique, ne marche pas à la suite des autres nations, mais les précède toutes. Que tu nous es contraire aujourd'hui? De quel esprit d'hostilité tu parais animé contre la véritable religion? Ah, encore une fois, France, tu demandais auparavant un roi catholique. Tu disais que les lois fondamentales du royaume ne permettaient point de reconnaître un roi qui ne fût pas catholique, et c'est précisément parce qu'il était catholique que tu viens de l'assassiner. Espérons que le sang innocent de Louis crie en quelque sorte et intercède pour que la France reconnaisse et déteste son obstination à accumuler sur elle tant de crimes et qu'elle se souvienne des châtiments effroyables qu'un Dieu juste, vengeur des forfaits, a souvent infligés à des peuples qui avaient commis des attentats beaucoup moins énormes. » Voilà. Et il avait dit à Mgr Spina, avant de mourir à la citadelle de Valence où Bonaparte l'avait enfermé, recommandait à mon successeur de pardonner aux Français de la même manière que je leur pardonne du fond du cœur. Voilà. Paul VI, Saint Paul VI, en 1967, a salué cette nation qui a tant contribué à enrichir le patrimoine culturel de l'humanité. et dont l'incomparable rayonnement religieux et missionnaire est d'un si grand prix aux yeux de l'Église. Et Saint Jean-Paul II, au Bourget, le 1er juin 1980, aujourd'hui, dans la capitale de l'histoire de votre nation, je voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté, fille aînée de l'Église. Nous connaissons la suite. Permettez-moi pour conclure de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander. France, fille aînée de l'Église, éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'humanité à l'alliance avec la sagesse éternelle? Pardonnez-moi cette question, poursuit-il, je l'ai posée par sollicitude pour l'Église, dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur, et par amour pour l'homme, dont la grandeur définitive est en Dieu, Père, Fils et Esprit. Et quelques jours avant, Saint Jean-Paul II avait confié « Oui, l'Église doit beaucoup au peuple de France, qui a beaucoup reçu et aussi beaucoup donné quelques-unes de ses plus belles pages. » Et je fais une transition toujours avec les papes, avec cette parole du pape Pie XI. Il est certain, selon un ancien adage, que le royaume de France a été appelé royaume de Marie, et cela à juste titre. Regnum Galliae, Regnum Mariae, numquam peribit. Le royaume de France est celui de Marie, jamais il ne périra. L'axiome est ancien, écrit l'historienne Anne Bernet dans l'introduction de son ouvrage Notre-Dame de France. Et longtemps, il fut regardé comme prophétique, en écho à une vision accordée à Saint Rémy le soir du 24 décembre 496, qui, si elle n'est peut-être pas parfaitement juste dans les détails, a en tout cas été considérée comme authentique pendant un millénaire, depuis les rois jusqu'à leurs fidèles sujets, ce qui lui confère un poids impossible à minimiser. Donc que vit Rémy au soir de la vigile de la Nativité 496, survenue dans un moment de doute, alors qu'il s'interrogeait sur le bien fondé du baptême d'un roi qui, à côté de ses grandeurs, avait quand même également pas mal de défauts. Sa conversion était-elle authentique, et surtout arriverait-il à persévérer? Il semble avoir été rassuré par la vision d'un avenir glorieux, magnifique, du royaume de France et de ses souverains. Mais une série de visions l'effrayèrent, mettant en scène l'anéantissement de l'œuvre accomplie, la déchéance des Francs, leur apostasie, qui trouvait son sommet en la Révolution française. Selon la tradition, dit-on, Rémy, accablé par la révélation de ce lointain avenir, fondit en larmes. C'est alors qu'une voix féminine se fit entendre, poursuit Anne Bernet, consolante et qui assurait « Ne craignez pas, je suis là et je veille. » Je laisse à Sœur Geneviève-Marie le soin de vous dépeindre la fresque mariale de la France.
L'histoire de Notre-Dame et de la France, c'est une longue histoire, une très longue histoire, dont nous n'allons malheureusement pouvoir prendre que les grandes lignes, juste qu'il faut pour entrevoir que ce lien est très fort, un lien donc qui existe entre Notre-Dame et notre pays. Notre-Dame est toujours venue répondre aux besoins de notre pays et aux maux de chaque époque. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de remettre l'intervention Notre-Dame dans la trame historique, ce que nous ferons dans un instant. Beaucoup de lieux païens ont été christianisés et nombre de cathédrales, citons par exemple Chartres et Soissons, ont été bâties sur les ruines de temples païens. À plusieurs endroits, la Vierge Marie va venir remplacer la déesse Isis. Cet amour de Notre-Dame pour la France est marqué par de nombreuses grâces, de protections, de guérisons, de statues miraculeusement trouvées ou apportées, de sources jaillissantes, d'apparitions. Nous ne pouvons parcourir notre pays sans y rencontrer tel ou tel sanctuaire, faisant état de ce lien que Notre-Dame a voulu tisser avec nous. Alors évidemment, nous ne pouvons pas ici tous les répertorier, mais nous en prendrons quelques-uns. Je vous propose de regarder les manifestations de cet amour de Notre-Dame dans l'histoire de France, puis nous verrons la réponse des Français envers elle, en positif et en négatif aussi. Prenons tout d'abord l'amour de Notre-Dame pour la France. Notre-Dame pose son regard sur la France dès les premiers siècles. Avant même que la France soit la France, Notre-Dame vient marquer notre sol de sa sollicitude maternelle. Très vite, la Sainte Vierge vient au secours de ses enfants. La Vierge Marie vient pour nous soutenir. On note par exemple que Saint Martin, a eu plusieurs visites de la Vierge Marie. La Vierge Marie apparaît également dès les premiers siècles pour guérir. À Notre-Dame de Bethléem, à Ferrières en Gâtinais, elle apparaît, elle montre la grotte de Bethléem, c'est un 25 décembre, au 4e siècle, près d'Orléans. Notre-Dame nous visite également pour demander des sanctuaires, c'est Notre-Dame du Puy. Apparition de Notre-Dame à Villa, qui l'a guérie et qui demande la construction d'un sanctuaire. Ce sera plus tard aussi la même demande que l'on retrouvera au Lot ou à Lourdes. Ailleurs, Notre-Dame vient demander des fêtes liturgiques. C'est par exemple Notre-Dame du Marillé, qui était d'abord appelée Notre-Dame Langevine ou Notre-Dame de Saint-Maurille, avant de devenir Notre-Dame du Marillé. On est en 430. Notre-Dame apparaît, l'enfant Jésus dans les bras. Elle apparaît à Saint-Maurille, évêque d'Angers. Elle lui demande de la part de Dieu la fête du 8 septembre pour qu'elle puisse être honorée le jour de sa naissance. Alors cette fête sera célébrée au 11e siècle dans toute la France et elle sera étendue à l'Église universelle en 1250. Face aux invasions des Normands et des Sarrasins, Notre-Dame va venir également soutenir les populations. Ainsi en est-il par exemple à Chartres, où les Normands devront reculer devant l'intercession de la Vierge Marie. Au Moyen-Âge, la Vierge protège, inspire les cités, les défend. Elle vole au secours de ceux qui sont emprisonnés. C'est par exemple la belle histoire de Notre-Dame de Liesse, où Notre-Dame viendra libérer deux chevaliers qui étaient en prison et elle les transportera miraculeusement dans leur lieu natal. Voilà pour les premiers siècles. Arrêtons-nous un petit peu sur la Renaissance, Notre-Dame qui vient au secours de la France lors de la Renaissance. Notre-Dame va effectivement intervenir face au fléau du temps. Or, la Renaissance est marquée par plusieurs drames. C'est la guerre extérieure contre l'Italie et l'Espagne. C'est la guerre civile avec 8 violentes guerres de religion. La Renaissance est aussi plusieurs épidémies de peste. C'est la menace des Turcs qui veulent s'imposer en Europe. Et Notre-Dame sera très impliquée durant ce siècle. En 1505, René II de Lorraine demanda à son sculpteur de représenter Notre-Dame de Bon Secours sous l'apparence de Notre-Dame de Miséricorde. Notre-Dame va préserver le duché de l'influence de la Réforme. Nous avons maintenant ce sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de Bon Secours de Nancy. En 1519, c'est Notre-Dame de Cotignac. Nous connaissons cette histoire de Notre-Dame de Cotignac. Le 10 août 1519, dans un tourbillon de lumière, Notre-Dame apparaît à Jean de la Baume, un bûcheron. Elle porte l'enfant Jésus et est accompagnée de Saint-Michel, qui est le patron du royaume, de Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui est la patronne de la maison de Valois, et de Saint-Bernard, le chantre de Notre-Dame. « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au consul de Cotignac de venir ici me bâtir une maison sous le vocable de Notre-Dame de Grâce, et qu'on y vienne en procession afin de recevoir les dons que je veux y répandre. » Notre-Dame de Grâce qui vient répondre durant ce siècle de la Renaissance au protestantisme. Jean ne fera rien tout de suite, alors Notre-Dame se manifestera à nouveau le lendemain et elle réitère sa demande. La ville sera également protégée, la ville de Cotignac. Elle passera au travers de la peste en 1522 et au travers des guerres de religion. Elle restera catholique. Notons également ici que l'histoire de Notre-Dame de Cotignac ne s'arrête pas là. Vous le savez, Louis XIII et Anne d'Autriche, après 22 ans de mariage, n'ont toujours pas de descendance. En 1637, une locution intérieure apprend au frère Fiacre qu'il faut demander la naissance de l'héritier au trône de France par 3 neuvaines, l'une à Notre-Dame de Paris, l'autre à Notre-Dame de Grâce, la troisième à Notre-Dame des Victoires. 9 mois après la fin de la dernière neuvaine, naîtra Louis Dieudonné. Et en 1660, Louis XIV viendra rendre grâce à Notre-Dame de Cotignac. La même année, souvenons-nous que Saint-Joseph apparaît sur la colline d'en face à Cotignac. 1505, 1519, 1522 ou 1524, c'est Notre-Dame du Peuple qui vient sauver Draguignan de la peste. Une femme arrive à Draguignan, son ballon de vêtements devient trop lourd et il lui faut l'abandonner. Notre-Dame lui apparaît et l'arrête à l'entrée de Draguignan. On découvrira que ses vêtements étaient contaminés par la peste. En 1524, les consuls construisent une chapelle votive.
Notre-Dame sauvera également la ville de la peste en 1565 et 1722. En 1547, c'est Notre-Dame de Garaison, pas très loin de Lourdes. Notre-Dame va demander à Anglaise de Sagazan de prier pour la France et pour le roi de France. C'est l'année de la mort de François Ier et de l'avènement d'Henri II. Notre-Dame de Garaison, nous la retrouverons également en 1590, lors des guerres de religion, la 8e guerre de religion. La statue de Notre-Dame des Sept Douleurs va résister aux flammes alors que tout le sanctuaire est détruit par les Huguenots. Les guerres de religion, vous le savez, ont été sanglantes. De nombreux sanctuaires et statues ont été détruits, souvent brûlés. En 1562, ainsi, à Notre-Dame de Bourges, c'est Notre-Dame de Sales, la plus ancienne vierge de la ville de Bourges, qui est traînée puis brûlée sur la place publique. Des processions réparatrices seront faites en 1589. Dans le même élan, en 1569, c'est Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mère d'Henri IV, qui est calviniste, et qui publie une ordonnance pour la destruction systématique des oratoires champêtres. Avant que l'église de Buglose ne soit livrée aux flammes, en 1570, un catholique avait pris la statue et l'avait placée dans un marais. Ce n'est qu'en 1620 qu'un bouvier va la retrouver grâce à ses bœufs qui léchaient la statue. Notre-Dame a voulu que l'on retrouve sa statue. Et en fait, en 1620, cela arrive lorsque Louis XIII cherchait à réparer les déprédations commises par sa grand-mère. Puisque effectivement, il est le petit-fils de Jeanne d'Albret. Et Louis XIII va aider à la reconstruction de tous les sanctuaires qui ont été détruits par sa grand-mère. En 1583, c'est Notre-Dame de Liesse. On va faire vers ce sanctuaire une grande procession de pénitents pour demander à ce que la France soit sauvée des hérésies. Et puis, nous ne pouvons pas quitter la Renaissance sans évidemment parler de la victoire de Lépante. Nous sommes cette fois en 1571. Devant l'avancée des Turcs, Saint-Pie V prêche la croisade du rosaire et appelle les princes d'Occident à lutter contre l'invasion. Le 7 octobre 1571, c'est donc la victoire de Lépante. La flotte turque est détruite et l'Europe est sauvée. Voilà donc pour la France lors de la Renaissance et son lien avec Notre-Dame. Voyons maintenant Notre-Dame du XVIIe au XIXe siècle en France. Vous connaissez, nous y sommes, 1664-1709, Notre-Dame du Lot. Notre-Dame du Lot, ce sanctuaire demandé par Notre-Dame à son fils. En 1684, Notre-Dame demande à Benoît Trencurel de prier et de faire prier pour le roi. Louis XIV est alors menacé de mort. Au motif que, s'il venait à manquer, dit Notre-Dame, la France serait perdue. Cette demande sera réitérée en 1689, 1692 et 1695. Et Notre-Dame se charge elle-même de demander des prières pour le roi de France. Alors au XVIIe et XVIIIe siècle, Notre-Dame est très vénérée en France. Mais évidemment, les choses vont un peu changer avec la Révolution française. En 1789, c'est Notre-Dame de Nanteuil qui pleure. Elle pleure devant ce qu'il va se passer et à nouveau, nombre de statues vont être brûlées, décapitées. La Révolution semble marquer une rupture dans ce lien qui se tissait entre Notre-Dame et la France. On veut éradiquer la foi dans notre pauvre pays. On s'attaque aux prêtres, nombre d'églises sont détruites. On a aussi voulu également tuer la dévotion mariale en supprimant tous les signes de cette dévotion, en détruisant sanctuaires et statues. Après avoir décapité le roi de France, c'est elle, reine de France, que l'on essaie de décapiter. 1789, Notre-Dame de Souterre de Chartres est brûlée. 1793, c'est le tour de Notre-Dame de Boulogne dans le Nord, Notre-Dame de Sillon en Lorraine, Notre-Dame du Bernay en Gascogne, Notre-Dame du Saint-Cordon à Valenciennes. 1794, c'est Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Liesse. En 1794 également, il y a quelques échecs dans cette volonté de tout saccager. Notre-Dame d'Avenières et Notre-Dame de Verdelet vont réussir à résister. Tout devrait être fini, évidemment la liste n'est pas exhaustive, tout devrait être fini de ce lien entre Notre-Dame et la France, mais la Révolution c'est aussi un grand nombre de témoignages de la foi, et Notre-Dame est glorieuse.
Loin d'abandonner la France, Marie, reine de France, va la gratifier de 5 visites importantes durant lesquelles elle va venir secourir la France. Nous sommes au 19e siècle. Première visite, c'est 1830, la rue du Bac, médaille miraculeuse. Le 18 juillet 1830, 10 jours avant la révolution de juillet 1830, la Sainte Vierge dit « Les temps sont mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France, le trône sera renversé, le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Le sang coulera, la croix sera méprisée, on la mettra par terre, on ouvrira de nouveau le côté de notre Seigneur. » Mais Notre-Dame promet son soutien. Le 27 novembre 1830, Sainte Catherine Labourée voit Notre-Dame joindre les mains et tenir un globe terrestre. Les rayons l'éclairent et se concentrent en un point précis. Il s'agit de la France. Comme cela est écrit au pied de la statue, ce globe représente le monde, tout particulièrement la France, et chaque personne en particulier. Sainte Catherine voit la Sainte Vierge offrir ce globe à notre Seigneur. Elle dira à ce sujet qu'il sera beau d'entendre dire « Marie est la reine de l'univers, particulièrement de la France ». Et les enfants s'écrieront avec joie et transport de chaque personne en particulier. Ce sera un temps de paix, de joie et de bonheur qui sera long. Elle sera portée en bannière et elle fera le tour du monde. En dépit donc des péchés et des crimes de notre pays, la Sainte Vierge veut continuer à répandre sur lui ses bienfaits. Cela est bon à entendre. Première apparition donc du 19e, 1830. 1846, deuxième apparition, c'est la Salette, à 1 heure d'ici. La Vierge Marie est en larmes. Elle apparaît à Mélanie Calva et à Maximin Giraud qui diront « Nous avions l'impression d'une mère qui est en train de pleurer parce qu'elle a été battue par ses enfants. » Notre-Dame leur dira « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. » 1830, 1846, 1858, vous le savez, c'est Lourdes, avec 18 apparitions. Lourdes qui nous appelle à la pénitence, à la prière. Lourdes où Notre-Dame demande une chapelle, une procession. La Vierge Marie était depuis longtemps, en fait, liée à l'histoire du comté de Lourdes. Deux événements sont à noter. Déjà au 8e siècle, 778, le Sarrasin Mira, comte du château de Mirambel, subit le siège de Charlemagne qui invoque Notre-Dame du Puy. Curieusement, un énorme poisson est miraculeusement apporté à l'assiégé qui se convertira et deviendra chevalier de Sainte-Marie. Il lui consacre son comté. Celui-ci recevra alors le nom de Lorda, qui veut dire « rose » en arabe. Et Notre-Dame de Lourdes apparaîtra avec des roses sur chaque pied, une rose sur chaque pied. Au XVIe siècle, le comte de Lourdes renouvelle cette consécration envers Notre-Dame sous le vocable de l'Immaculée. C'est justement ce lieu que Notre-Dame choisit en 1858 pour se révéler « Je suis l'Immaculée Conception ». La rue du Bac, la Salette, Lourdes, mais aussi Pontmain. Nous sommes en 1871. En pleine guerre contre les Prussiens, Notre-Dame nous exhorte « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Et enfin, pour clore cette série d'apparitions du 19e, nous avons Pellevoisin en 1876. 15 apparitions. La Vierge Marie demande un ex voto pour publier sa gloire. Elle va guérir Estelle Faguette, apparaître dans une couronne de roses aussi, et marquer que si nous la prions, il y aura une pluie de grâce. À Estelle Faguette, le 15 septembre, la Sainte Vierge dit « Je te tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Et ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. » Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements, et pourtant, encore, elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir mon fils, la France souffrira. Elle dira aussi à Estelle Faguette, toi tu as bien le tempérament des Français à vouloir tout comprendre avant de savoir et tout savoir avant d'apprendre. Voilà donc 5 visites au 19e siècle qui vont marquer notre sol du M de Marie. Au XXe siècle, Notre-Dame vient également à plusieurs reprises à notre secours. En 1909, c'est Notre-Dame des Bois. Notre-Dame apparaît au Père Lamy, en l'église de Gré, en Haute-Saône. Elle révèle les mots à venir et demande la construction d'une chapelle en disant « Dieu n'abandonnera pas les siens, il n'abandonnera pas la France ». Durant la Première Guerre mondiale, lors de la bataille de la Marne, des Allemands ont avoué avoir vu une dame qui les empêchait d'avancer. Notons également 1947, l'île Bouchard, le 8 décembre, la Vierge Marie apparaît à des enfants. « Mes enfants, il faut beaucoup prier pour la France. Je ne suis pas venue faire des miracles, mais pour vous dire de prier pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. » Le contexte historique est celui d'instabilité gouvernementale, de nombreuses grèves, d'émeutes aussi, qui sont organisées par les communistes. À l'île Bouchard, Notre-Dame se présente comme Notre-Dame de la prière. Notons que la même année, notre Seigneur dira à Marcel Van que le parti puissant en France est celui de la prière. Il y a une bonne communication au ciel. Le 14 décembre, Notre-Dame annonce « C'est fini, la France est sauvée ». Tout cela nous invite effectivement, dans le contexte actuel, de garder l'espérance, car Notre-Dame est toujours reine de France. Voilà donc pour l'intervention de Notre-Dame en France,